Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Merci de prendre le contrôle de toutes choses, éternel Dieu de gloire, de garder notre attention, que nos regards soient tournés vers toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 4, à partir du verset 17, la Bible dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. L'apôtre Paul nous donne la démarche, nous explique le comportement que nous devons adopter. Il nous rappelle la manière dont nous marchions autrefois et il nous montre l'objectif à atteindre, à marcher conformément à Christ, conformément à la vérité. Alors, il nous dit dans le verset 18, en parlant des païens, de ceux qui n'ont pas connu Dieu, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Lorsqu'on parle d'ignorance, l'opposé, c'est la connaissance. La connaissance qui est liée aussi à l'intelligence. Et lorsque l'on parle de l'endurcissement du cœur, lorsque l'on parle du cœur, on parle de l'âme. Le cœur, c'est ce qui représente les sentiments, ce qui représente la volonté. Donc d'un côté, nous avons l'intelligence et de l'autre côté, nous avons la volonté. Alors ce sont ces deux éléments qui dictent la vie d'un homme. Lorsqu'il ne connaît pas Dieu, parce que son intelligence est voilée, bien entendu, par rapport à la parole de Dieu, il va avoir un comportement, comme la Bible dit, comme la Bible qualifie, d'animal. Celui qui ne connaît pas Dieu vit comme un animal. Mais celui qui a connu Dieu doit passer d'un état à un autre état. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous explique que ce qui est lié à l'ignorance, ce qui est lié à la vie païenne telle que nous étions autrefois, c'est la cupidité, c'est l'impudicité, c'est toutes sortes de comportements qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Mais de l'autre côté, il nous exhorte à nous qui avons connu le Seigneur, nous qui avons reconnu que Jésus-Christ était Dieu, nous qui avons reconnu que la parole de Dieu était la véritable parole, eh bien nous devons changer de comportement et ne plus marcher selon le vieil homme, mais accepter de marcher, de revêtir l'homme nouveau, celui que Dieu a régénéré pour vivre une vie sainte fondée sur la parole de Dieu. Nous lisons encore 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce passage nous explique encore la transformation qui est opérée dès l'instant où nous sommes nés de nouveau, dès l'instant où nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, comme Sauveur et comme notre Seigneur. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est une transformation, nous passons d'un état à un autre état totalement différent. Mais lorsque nous marchons dans la rue, lorsque nous voyons nos amis ou les membres de nos familles, bien aimé, les yeux n'ont pas changé, les cheveux n'ont pas changé, nous n'avons pas grandi de plus. La personne physique telle que les gens vont la voir est toujours la même. Mais la transformation qui est opérée est une transformation intérieure. Le corps, qui est l'enveloppe de l'âme et de l'esprit, ne change pas. Mais c'est l'intérieur qui est transformé par la puissance de Dieu. Et lorsque la Bible nous dit que toutes choses sont devenues nouvelles, c'est-à-dire c'est notre intérieur qui a été changé et qui est devenu nouveau. Alors lorsqu'on parle de nouveauté de vie, automatiquement ça va inclure aussi une transformation dans la vie de chaque jour. Si l'intérieur a été changé, eh bien il se manifestera aussi à l'extérieur, par des actes, par des sentiments, par une manière de voir les choses, par une manière de penser. Tout sera transformé. Bien que l'extérieur paraîtra être identique, mais les habitudes changeront aussi. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque la Bible parle de transformation, c'est une opération qui se fait directement. C'est une opération qui est quelque part indépendante de nous, bien-aimés. C'est quelque chose, c'est un processus qui se fait comme une loi. Dès l'instant où nous acceptons le Seigneur, automatiquement, il y a un changement qui se produit. Alors si ce changement se produit, obligatoirement, à un moment donné, il sera visible. Il sera visible de quelle manière? Puisque, étant nés de nouveau, nous avons reçu l'Esprit de Christ. Selon Éphésiens 1:13, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Alors l'Esprit de Dieu vivant en nous, lui cherchera à manifester la vie de Dieu, cherchera à manifester cette nouvelle vie dans laquelle nous sommes entrés, cette nouvelle vie à laquelle nous avons adhéré. Mais le constat que nous faisons, bien-aimés, c'est que les choses ne sont pas tout le temps ainsi. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 2:14 jusqu'à 1 Corinthiens 3:3, on nous parle de l'homme charnel, celui qui a accepté le Seigneur, mais dont sa manière de fonctionner est semblable à un païen, est semblable à une personne qui n'a pas connu le Seigneur. Il se dit chrétien, il a accepté le Seigneur, il a reconnu que Jésus-Christ était Dieu, mais la démonstration de sa vie est tout simplement la manifestation de la chair. C'est pourquoi on l'appelle homme charnel. Parce que bien qu'il ait été régénéré, il n'a pas voulu, il a accepté le Seigneur un temps, mais aujourd'hui, il marche selon ses propres penchants. Jésus-Christ est présent dans sa vie comme sauveur, qui est prêt à pardonner, mais le côté Seigneur, il l'a mis de côté et lui-même dirige différents aspects de sa vie. Nous lisons encore un passage dans Galates chapitre 5. À partir du verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous passons d'un état à un autre. Mais le second état dans lequel nous entrons nécessite une collaboration. Bien que la volonté de Dieu et que nous puissions marcher comme ses enfants, nous sommes laissés libres, nous sommes restés maîtres dans notre volonté. C'est à nous d'accepter la nouvelle naissance. C'est à nous d'accepter la nouvelle créature que Dieu a fait en nous. Et c'est en l'acceptant qu'elle va se manifester automatiquement. L'apôtre Paul nous dit encore que si nous voulons que ce côté manifestation de la nature de Dieu agisse, eh bien nous devons accepter de marcher selon l'Esprit. Nous devons chercher à marcher selon ce que l'Esprit nous propose, selon ce que l'Esprit nous impose, selon ce qui est agréable à l'Esprit. Et cela demande notre concours, cela demande notre volonté. Mais de l'autre côté, si nous marchons selon la chair, la Bible nous dit que les œuvres de la chair sont évidentes. Nous les avons lues, l'idolâtrie, la magie, la cupidité, les rivalités, les querelles, tout ça sont les œuvres de la chair. Donc lorsque nous sommes charnels, ce n'est pas qu'on va s'efforcer, bien aimé, à être dans les querelles. Ce n'est pas qu'on va s'efforcer à être dans la colère. Puisque c'est la nature de la chair, cette nature cherchera à se manifester automatiquement. Un chien bien-aimé ne peut pas faire autre chose que d'aboyer, puisqu'il a été créé ainsi. Il ne fera pas autre chose. Les animaux, selon leur espèce, feront des bruits selon leur nature. Ils ne pourront pas imiter ou faire différemment, parce qu'ils ont été créés ainsi. Donc celui qui est charnel ne pourra pas faire autre chose que de la chair. La chair se manifestera tout le temps. Mais de l'autre côté, celui qui est spirituel, les œuvres de l'Esprit se manifesteront aussi, puisqu'il est né de nouveau et c'est un processus qui se fait automatiquement. Simplement parce qu'il a fait le choix de marcher selon l'Esprit. Alors, c'est des situations que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, quelquefois, avons du mal à pratiquer, avons du mal à discerner. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Lorsque nous sommes dans des situations qui ne sont pas écrites clairement dans la parole de Dieu, nous avons quelquefois du mal à faire des choix. Nous avons quelquefois du mal à nous repérer parce que la Bible n'est pas explicite dans certains cas. Or, on nous demande de marcher selon l'Esprit. L'Esprit, bien-aimé, nous conduit premièrement dès l'instant où nous sommes sincères. La sincérité, c'est déjà accepter la volonté de Dieu, c'est déjà accepter la vérité de Dieu. Le contraire de la sincérité se voit, bien-aimé, dès l'instant où nous commençons à contester même des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Lorsque nous cherchons à nous justifier, oui, mais c'était à cause d'eux. Dès que nous cherchons, bien-aimé, que nous commençons à contester ce qui est clair dans la parole de Dieu, c'est sûr et certain, bien-aimé, que nous allons aussi contester ce qui nous dépasse. Si la simplicité que Dieu nous présente, nous ne l'acceptons pas, bien-aimé, ce qui est difficile, nous ne l'accepterons pas non plus. Commençons par accepter ce qui est écrit noir sur blanc, comme on le dit en bon français, et ensuite, ce qui peut être difficile, nous l'accepterons aussi. Mais si déjà nous négligeons les simples commandements, si déjà nous refusons de nous soumettre à ce que nous pouvons comprendre, alors bien-aimé, ce qui nécessite une explication, combien même on nous l'expliquera, on refusera de s'y soumettre. Nous voulons marcher selon l'Esprit, commençons par obéir à tout ce qui est à notre niveau. Ce qui est à notre niveau, c'est ce que nous pouvons comprendre comme des enfants. Ce qui nous dépasse, que nous ne pouvons pas comprendre, le fait d'être sincère, le fait d'accepter tout ce que Dieu permet dans notre vie, eh bien, nous l'accepterons au moment où nous devons faire des choix, nous ferons les bons choix parce que nous sommes sincères. Et combien même le choix que nous allons faire en toute sincérité, mais dans lequel nous serons dans l'erreur, le Seigneur nous rattrapera pour nous faire changer de voie. Mais si nous refusons de nous soumettre à ce qui est écrit, même si le Saint-Esprit nous parle de toutes sortes de manières, par des songes, par des visions, bien-aimé, on prendra aussi ce qui va nous arranger. Nous devons premièrement nous soumettre à la parole de Dieu telle qu'elle nous l'a présentée. Tout homme qui est né de l'Esprit nous dit, dans Jean 3, 8, il est comme le vent. Le vent souffle, on en entend le bruit, mais on ne sait pas d'où il vient ni où il va. C'est-à-dire que le vent n'est pas maître de ce mouvement. Et la Bible nous dit que toute personne qui est née de nouveau doit être semblable à ce vent. Il ne sait pas là où Dieu l'emmène, il ne sait pas là où l'objectif, je dirais, de chaque jour pour lui, mais il obéit tout simplement à Dieu. Il accepte que Dieu l'envoie à gauche, il y va. Dieu l'envoie à droite, il y va. Dieu lui demande d'aller, il y va. Dieu lui demande de s'arrêter, il obéit. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'Esprit. Nous lisons 1 Thessaloniciens 5, 23 pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que certains obéissent et que d'autres n'obéissent pas. Est-ce que le Seigneur fait du favoritisme dans lequel il donnerait la facilité à d'autres d'appliquer la parole et à d'autres de ne pas le faire? Car nous voyons, bien-aimés, nous entendons beaucoup au milieu des chrétiens des langages tellement différents qui nous interpellent et qui interpellent les gens de l'extérieur, à savoir, mais est-ce que vraiment ces gens-là lisent la même Bible? Est-ce qu'ils comprennent la parole de la même manière? Il y a un seul évangile, mais il y a tellement d'interprétations. Il y a tant d'évangiles, mais il y a tant de différences quelquefois dans la mise en pratique. Est-ce que la parole est différente? Certains disent, mais non, mais moi je n'y arrive pas. Mais comment les autres y arriveront et toi tu n'y arriveras pas? Bien-aimé, alors que nous avons reçu le même esprit. Si nous avons reçu le même esprit, c'est que nous sommes capables de faire les mêmes choses, selon la volonté de Dieu, peut-être dans le service, mais au niveau de la sainteté et de la mise en pratique, nous sommes tous au même piédestal. Il n'y a personne qui a été favorisé, il n'y a personne qui a été élevé, il n'y a personne qui a reçu plus de capacité que l'autre pour mettre la parole de Dieu en pratique. Tous nous avons reçu le même esprit, et par ce même esprit, nous avons tous la capacité d'obéir au même évangile. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui vous fera. Et qu'est-ce qu'il fera? Eh bien, il sanctifiera notre corps tout entier. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il sanctifiera notre corps tout entier. Le Seigneur fera sa part pour nous amener au maximum à la ressemblance de Christ. Donc, dès l'instant où nous acceptons le Seigneur, le plan de Dieu pour notre vie commence. Le plan de Dieu pour que nous puissions recevoir toutes les bénédictions qu'il nous a promis, mais le plan de Dieu pour qu'il puisse aussi nous transformer de jour en jour pour nous amener à la stature parfaite de Jésus-Christ. Et le changement que Dieu veut opérer dans nos vies, par la sanctification, passera par des épreuves, passera par des événements que la chair n'accepte pas, mais qui sont bénéfiques quant à la vie en esprit. Alors, on nous dit que tout votre être, c'est ça que Dieu veut sanctifier, l'esprit, l'âme et le corps. Alors, en le côté spirituel, c'est un domaine qui nous dépasse, dans lequel nous n'avons pas toutes les explications. Et la Bible nous dit que nous connaissons en partie, mais nous connaîtrons tout lorsque nous serons parfaits, lorsque nous serons avec lui. Mais le peu que nous pouvons connaître à travers les Écritures nous fait comprendre que nous sommes constitués du corps, celui qui nous permet, je dirais, de nous distinguer visiblement. Nous sommes composés d'un esprit et nous sommes composés de l'âme. Alors, le corps est l'enveloppe, le côté physique tel que je le disais. L'âme est la partie immatérielle que nous ne voyons pas, mais dans lequel se trouvent les sentiments, dans lequel se trouve la volonté, dans lequel se trouvent les émotions et l'esprit qui est le siège qui nous permet d'être en contact avec le monde spirituel. L'esprit qui fait la liaison avec le monde spirituel, l'esprit qui est, je dirais, la source de l'intelligence, qui nous permet de comprendre, qui nous permet de discerner les choses. C'est par l'esprit. Alors, lorsque nous sommes charnels, c'est-à-dire que c'est l'âme qui, dans laquelle se trouve la volonté, qui va décider à nous orienter dans tout ce qui est lié à la chair. Mais puisque nous avons été régénérés, l'Esprit Saint qui vit en nous doit maintenant dominer sur tout le reste pour nous amener à manifester les œuvres de l'Esprit, pour nous amener à manifester le fruit de l'Esprit. Donc, tant que nous acceptons que l'Esprit Saint au-dedans de nous soit le chef, les œuvres de l'Esprit se manifesteront. Mais si l'Esprit Saint qui est au-dedans de nous n'est plus le chef, automatiquement ce sont les œuvres de la chair qui vont se manifester. Or, la Bible nous dit que nous sommes nés de nouveau. Et étant nés de nouveau, nous devons manifester la nouvelle création. Nous devons manifester la nouvelle identité que Dieu nous a donnée. Et comme je le disais, bien-aimé, ce que nous voyons, c'est que bien souvent, même en tant qu'enfants de Dieu, ce sont les œuvres de la chair qui se manifestent. La Bible nous dit, dans le passage que nous avons lu dans Galates, les œuvres, les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés. Donc ce sont des désirs totalement différents. Or, lorsque Jean-Baptiste a vu le Seigneur Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Mais il a dit aussi « Il faut que moi je diminue et que lui croisse ». La même confession que Jean-Baptiste a faite, c'est cette confession que nous devons accepter au-dedans de nous afin que les œuvres de l'Esprit se manifestent. Nous devons accepter, nous, de diminuer et que Jésus-Christ puisse croître en nous. Nous devons accepter que les désirs de la chair soient diminués et que les désirs de l'Esprit soient manifestés. Et pour que ce processus se fasse, cela demande notre volonté. Cela impose notre choix. Le fait de dire « Seigneur, prends le contrôle de ma vie ». Et dès l'instant où nous donnons en quelque sorte la permission à Dieu, eh bien, le Saint-Esprit commence à faire le travail pour être véritablement le chef et que l'œuvre, les œuvres, les fruits de l'Esprit se manifestent clairement en nous. Nous avons vu les désirs de la chair, nous avons vu les désirs de l'Esprit. Dans Éphésiens 4, nous avons lu, l'apôtre Paul nous dit « Voilà comment vous marchiez autrefois, mais voici maintenant comment vous devez marcher ». Et les caractéristiques nous sont données dans l'Épître aux Galates, les œuvres de la chair qui manifestent notre manière de marcher d'autrefois et les fruits de l'Esprit dans lesquels le Seigneur voudrait que nous puissions persévérer à l'image de Jésus-Christ, manifester la nature de Dieu. Mais je le répète encore, cela demande notre concours. Nous sommes appelés à marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Alors, puisque nous sommes nés de nouveau, étant nés de nouveau, ce qui convient à notre nouvelle nature, c'est tout ce qui est conforme à la parole de Dieu. Ce qui réjouit le Saint-Esprit qui vit en nous, ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est la mise en pratique de sa parole. C'est quelque chose qui est totalement, qui doit se faire automatiquement. L'âme qui est au-dedans de nous, selon les émotions qu'il va vivre, va manifester quelque chose. Selon ce que nous allons ressentir au-dedans de nous, cela va produire une conséquence qui se produira physiquement. Nous voyons, bien-aimés, dans le monde, et même pas dans le monde, même dans l'Église, par rapport à notre nature. Là, je vais parler plus des personnes qui sont plus claires de peau. Lorsqu'il y a un événement, quelque chose de dérangeant, nous voyons le visage devenir rouge, bien-aimés. Le fait que le visage rougit, c'est la conséquence qu'il s'est passé quelque chose au-dedans. Il y a eu une émotion qui a amené la personne à rougir. Nous voyons d'autres personnes, soit devant les jeux vidéo, soit devant la télévision, soit dans l'attente d'une réponse, nous les voyons en train de se ronger les ongles, quelquefois jusqu'à s'en arracher la peau. Alors, nous savons tous que ça, c'est le signe qu'il y a quand même un stress, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais visiblement, nous, ce que nous voyons, c'est que la personne se ronge les ongles. Mais cela est la conséquence d'une émotion, d'un sentiment qu'il y a dans son cœur et qui le pousse à réagir ainsi. Nous voyons d'autres personnes qui se mettent en colère. Mais la colère n'est que le résultat de ce qui s'est passé au-dedans de lui. Il va le manifester par la colère. En fonction de ce que nous allons ressentir, d'autres vont peut-être pleurer. En fonction de l'événement qui s'est passé, peut-être le décès, peut-être une grosse déception qui va comment dire, l'affecter profondément et finalement qui va se manifester soit par des pleurs, qui va se manifester soit par des cris, qui va se manifester soit par le stress ou soit par la colère. Mais dans tous les cas, ce que nous voyons est la conséquence de ce qui s'est passé au-dedans de nous. Donc c'est quelque chose qui est naturel. Et même lorsque on essaie, bien aimé, de le bloquer, quelquefois on sait que ça explose. Lorsqu'il y a des personnes qui se contiennent pendant des jours, pendant des semaines, quelquefois même pendant des années, suite à des déceptions, suite à des événements difficiles qu'ils ont subis, qu'ils ont gardés pour eux, le jour où ça explose, bien souvent, ça fait des dégâts. Le jour où ça explose, bien souvent, ça amène des conséquences irréversibles parce que la personne a cherché à se contenir. Or, il y a dans le corps de l'homme, la manière dont nous avons été constitués, des expressions naturelles en fonction de ce que nous vivons va influencer et il y aura une conséquence. Alors, puisque nous sommes nés de nouveau, que nous ne sommes plus conduits par la chair, mais conduits par l'Esprit, l'Esprit Saint aussi aura ses expressions naturelles. En fonction des événements que nous vivrons avec Dieu, l'Esprit Saint cherchera à se manifester. Si nous sommes dans la joie parce que nous avons entendu une bonne nouvelle de la part du Seigneur, on chantera peut-être des louanges, on remerciera peut-être Dieu. Donc, en fonction de ce que Dieu fera dans notre vie, il y aura une manifestation physique qui démontrera ce que nous avons reçu au-dedans de nous. La Bible dit dans le psaume 150, « Louez l'Éternel selon l'immensité de sa grandeur. » En quelque sorte, louez l'Éternel selon ce que vous pensez de lui. Si nous pensons que Dieu est grand, nous le louerons en fonction de sa grandeur. Si pour nous, Dieu, ça ne nous dit rien du tout, on ne louera pas non plus. L'Esprit Saint a soif de manifester la nature de Dieu. Or, l'Esprit Saint se réjouit de tout ce que le Seigneur fait. L'Esprit Saint se réjouit à chaque fois que Dieu se manifeste, que Dieu se glorifie. Alors, quelle est la chose qui empêche l'Esprit de se manifester lorsque Dieu fait quelque chose dans nos vies? Qu'est-ce qui fait que l'Esprit qui a soif de manifester la nature de Dieu, finalement, dans l'apparence, demeure comme autrefois. Bien aimé, je suis d'accord que les apparences, quelquefois, peuvent être trompeuses. Mais les apparences peuvent être trompeuses jusqu'à quand? Si la Bible nous dit que nous reconnaîtrons les faux prophètes à leurs fruits, c'est que nous reconnaîtrons aussi les chrétiens à leurs fruits. Si aujourd'hui nous sommes capables de voir que telle personne est énervée à partir de la réaction qu'il a. Mais nous devons aussi être capables de discerner que cette personne est dans la joie parce que les expressions sont différentes. Automatiquement, en fonction de ce que la personne aura vécu. Or, l'Esprit Saint qui est au-dedans de nous a soif de manifester la nature de Dieu. Il y a des personnes qui disent, mais la Bible dit que Dieu nous donne la paix, mais moi je n'arrive pas à être en paix. Alors, est-ce que Dieu s'est trompé quelque part? Est-ce qu'il y a eu un défaut de fabrication au moment où nous sommes nés de nouveau? Est-ce que dans les vertus de Dieu, le Seigneur aurait oublié d'ajouter la paix? Il y a certains qui disent, moi je n'arrive pas à avoir la joie. Est-ce que le Seigneur aurait oublié de nous donner la joie? Le Seigneur a dit, tout est accompli. Le sacrifice a été total pour nous amener à vivre la nature de Dieu, qui ne demande qu'à se manifester. Mais pour cela, nous devons diminuer et Jésus-Christ doit croître en nous. Il y a tant d'obstacles aujourd'hui, bien-aimés, et c'est bien souvent triste. Dans les choses, je dirais, élémentaires, dans les choses premières que nous pouvons constater, lorsque nous sommes à l'extérieur, que nous voyons une personne marcher dans la rue, même une chrétienne, peut-être être triste, on ne peut pas forcément savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. La seule chose que nous pouvons constater, c'est que la personne est triste. Et si nous ne discutons pas avec elle, nous ne pouvons pas savoir la raison qui l'a amenée à être triste. Nous pouvons voir d'autres dans la joie, et sans savoir pourquoi cette personne est dans la joie, mais on peut comprendre que certainement Dieu a fait quelque chose dans sa vie pour qu'il soit dans la joie. Alors, lorsque nous sommes à l'extérieur, ça ne se voit pas. Mais bien aimé, lorsque nous sommes tels qu'aujourd'hui, rassemblés, premièrement pour venir louer Dieu, lorsque nous sommes rassemblés pour venir adorer Dieu, lorsque nous sommes assemblés pour venir lui rendre le culte raisonnable, la moindre des choses, c'est-à-dire la reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous. Bien-aimés, le Saint-Esprit a besoin de louer Dieu. Alors c'est étonnant de voir que pendant que certains louent, d'autres sont totalement indifférents. Alors je ne dis pas qu'ils n'aiment pas Dieu, mais je dis jusqu'à quand le Saint-Esprit peut rester indifférent à la louange vis-à-vis de Dieu. La Bible nous dit que dans le ciel, on adore Dieu jour et nuit. Or, la Bible nous dit dans Éphésiens que l'Esprit Saint que nous avons reçu est un gage de Dieu. C'est-à-dire, c'est le témoignage des choses spirituelles. Le Saint-Esprit est un avant-goût du ciel. Le Saint-Esprit est censé nous montrer un avant-goût de ce qui se passera dans le ciel. Alors, si cet avant-goût-là ne nous donne aucune faim de Dieu, si cet avant-goût-là ne nous communique aucune soif de Dieu, bien-aimés, c'est que nous avons un problème. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, lui cherchera à se manifester toujours pour rendre gloire à Dieu. Alors, comment pouvons-nous, bien-aimés, quelquefois, passer une heure, entre guillemets, dans l'adoration, sans même ouvrir la bouche? Comment pouvons-nous, bien-aimés, passer une heure dans l'adoration sans même remercier Dieu? C'est qu'il y a des obstacles pour que le Saint-Esprit se manifeste. Je l'ai expliqué, bien-aimés. Lorsque nous sommes déçus, lorsque nous vivons des choses difficiles, dans le monde, même aujourd'hui, il y a une réaction quelquefois qui se fait indépendamment de nous. Nous voyons combien de situations, bien-aimés. Quelquefois, nous essayons de nous contenir pour essayer de retenir les larmes, mais c'est trop fort. Alors, lorsque nous sommes dans le Seigneur, bien-aimés, ce phénomène est automatique aussi. Parce que l'Esprit de Dieu, lui, a toujours soif de manifester tout ce qui est agréable à Dieu. L'Esprit de Dieu aura toujours soif d'adorer Dieu. L'Esprit de Dieu aura toujours soif de louer le Seigneur. L'Esprit de Dieu aura toujours soif de manifester la foi, de manifester l'amour, de manifester la bonté, de manifester la bienveillance. Alors pourquoi toutes ces vertus qui nous sont données dans Galates 5, 22 ne se manifestent pas? Est-ce que Dieu s'est trompé quelque part? Si nous sommes là, bien-aimés, c'est parce que nous avons reconnu que Dieu était au-dessus de tout et qu'il ne se trompe pas. Que nous puissions, bien-aimés, nous humilier et reconnaître que nous-mêmes, nous sommes le problème qui empêche la véritable nature de Dieu de se manifester. Arrêtons de nous justifier et de dire « je ne peux pas louer Dieu à cause de ceci ou à cause de cela ». Je ne peux pas adorer Dieu à cause de ceci ou à cause de cela. Ce que nous avons au-dedans de nous, l'amour que nous avons pour le Seigneur, bien-aimé, se manifestera quelquefois indépendamment de nous. Je me souviens d'un jour, bien-aimé, pendant que nous étions en train d'adorer, de louer le Seigneur, il y a une personne qui s'est mise à crier. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, viens à mon aide. Alors, lorsque le culte est passé, je ne sais pas si c'était le même jour ou quelques jours après, en discutant avec cette personne, on lui pose la question, mais qu'est-ce que tu voulais dire par là? Il dit, moi je n'ai jamais rien dit. Moi je n'ai jamais rien dit. David dira dans le psaume 42, mon âme, pourquoi t'as battu? Espère en l'Éternel. Cette personne qui était en train de crier, bien-aimé, c'était le cri de l'âme qu'il a voulu peut-être retenir d'une manière ou d'une autre. Mais son âme devait être tellement triste, à force de se contenir, qu'il a explosé, qu'il a crié au secours. Lorsque l'Esprit Saint domine, bien-aimé, il prendra le contrôle sur tout. et il cherchera à manifester la nature de Dieu. Nous allons lire Luc chapitre 4. La Bible dit au verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes sortes de manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alors je reviens un peu en arrière. Je disais tout à l'heure que dans la marche selon l'Esprit, il y avait des choses quelquefois qui nous dépassaient, des événements discernés quelle est la volonté de Dieu. La Bible nous dit que Jésus-Christ, pendant qu'il était tenté par le diable, il eut faim après avoir été mené par l'Esprit dans le désert, il ne mangea pas pendant 40 jours et il eut faim. Le diable vint le tenter avec toutes sortes de propositions que certainement beaucoup d'hommes auraient cédé. Mais nous voyons que le Seigneur ne s'est défendu qu'en utilisant la parole de Dieu. Un des moyens pour être sûr de marcher selon l'Esprit, c'est de marcher selon la parole de Dieu. À chaque fois que nous marchons selon la parole de Dieu, nous sommes certains de marcher selon l'Esprit. Car l'Esprit se réjouit de tout ce qui est lié à la parole de Dieu. La Bible nous dit que tout ce que nous demandons selon sa volonté, Dieu nous écoute. Et s'il nous écoute, alors nous avons la chose, quelle qu'elle soit. Ce passage trouve dans 1 Jean 5, 14. Alors nous comprenons, bien aimés, que tout ce qui tend à accomplir la parole de Dieu, l'Esprit Saint le soutient. Nous voulons marcher selon l'Esprit, commençons premièrement par marcher selon la parole de Dieu. Nous lisons Actes chapitre 3. Verset 1er, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Bien-aimé, cet homme-là était paralytique, était boiteux, pardon. Il n'avait pas les mêmes capacités physiques que les autres. Et n'ayant pas ses capacités pour vivre, il mendiait. Alors, il croise les apôtres en leur demandant l'aumône. Ces deux derniers lui disent, mais regarde-nous. Il n'avait rien à lui donner, selon la demande de cet homme. Mais il lui dit, mais nous avons quelque chose. Ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Bien-aimé, lorsque l'Esprit de Dieu vit en nous, lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est pour manifester une nouvelle nature. Et la nouvelle nature manifestera, bien-aimé, des choses que l'ancienne nature ne pouvait pas. Manifestera des choses que l'ancienne nature n'arrivait pas à faire. La Bible nous dit que lorsque cet homme a été guéri, lorsqu'il a reçu la vie de Dieu, il a commencé à sauter, bien-aimé, ce qu'il ne pouvait pas faire. Il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à glorifier Dieu. La transformation qu'il a reçue l'a emmené à faire quelque chose de nouveau. Bien-aimé, combien d'entre nous est-ce que lorsqu'on était dans les boîtes de nuit, on chantait des louanges à Dieu? Lorsqu'on était dans la colère, bien-aimé, est-ce qu'on glorifiait Dieu? Mais maintenant que Dieu nous a changés, l'Esprit Saint, lui, veut manifester ce qui est de Dieu. Cet homme ne s'est pas retenu. Il avait reçu quelque chose de Dieu et il fallait qu'il exprime. C'était plus que lui. Bien-aimé, les gens qui jouent au jeu, quand ils ne gagnent rien du tout, bien-aimé, ou même s'ils se disent, bon, si je gagne, je vais bien me comporter. Mais on voit, lorsque certains gagnent au jeu, bien-aimé, comment ils crient, comment ils se traînent par terre, comment ils sautent. La honte disparaît à ce moment-là. Parce que l'événement qu'elle vient de vivre la dépasse tellement. Et cet homme était dépassé par ce qu'il venait de vivre. Et il ne pouvait pas s'empêcher de louer Dieu. Il ne pouvait pas s'empêcher de rendre la gloire à Dieu. Le Seigneur dit que celui à qui on a peu pardonné, aime peu. Mais celui à qui on a beaucoup pardonné, aimera aussi beaucoup. Celui qui sait d'où il vient, adorera aussi beaucoup Dieu. Mais celui qui considère qu'après tout n'était pas si mauvais que ça, c'est normal qu'il n'adore pas Dieu. C'est une grâce, bien-aimée, de louer le Seigneur. C'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir le servir. Alors pourquoi vivre avec retenue lorsque la Bible nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis? Quelle liberté, bien-aimée? C'est la liberté vis-à-vis de la chair. La liberté vis-à-vis du monde, la liberté vis-à-vis de nos anciennes conceptions. Le Seigneur est venu nous en délivrer de manière à ce que nous puissions vivre une vie chrétienne libre. Et cette vie chrétienne libre, bien-aimée, nous n'avons pas l'inventée. C'est la vie que le Saint-Esprit va communiquer naturellement. Mais il le manifestera naturellement dès l'instant où nous lui laissons toute la place. Mais lorsqu'on refuse de louer, parce que le voisin de gauche risque de me regarder. Lorsqu'on refuse de danser pour Dieu, peut-être parce que les gens diront que je ne savais pas danser. Bien-aimés, nous sommes en train de bloquer notre vie chrétienne et nous voulons vivre des exploits. Alors que les choses élémentaires, les choses primaires que le Saint-Esprit voudrait manifester, nous l'empêchons, bien-aimés. Et nous cherchons à faire des prodiges et des miracles avec Dieu. Mais les premières choses pour lesquelles le Saint-Esprit a été mis au-dedans de nous, bien-aimés, nous voulons l'empêcher d'agir. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens que nous avons été créés pour célébrer la gloire de Dieu. La Bible nous dit que Dieu cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est ça que Dieu cherche. Les miracles, c'est Dieu qui les fera. Dieu ne cherche pas les miracles, bien-aimés. Dieu cherche tout simplement des personnes qui vont accepter de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Quels que soient les regards des gens, quel que soit ce que les gens peuvent penser, ce qui est important, c'est que nous puissions s'y confesser. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance pour tous ceux qui croient. Je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile me demande d'adorer Dieu. Je l'adore. La parole de Dieu me montre que même des rois ont dansé de toute leur force devant leur sujet. Alors moi qui ne suis pas roi, comment j'empêcherai le Saint-Esprit de danser? Bien-aimé, l'adoration, la louange, c'est la chose la plus simple que nous pouvons faire pour Dieu. C'est la chose la plus simple que nous pouvons faire pour Dieu, bien-aimé. Parce que ça même, des enfants peuvent le faire. Après, diriger des œuvres, diriger une église, servir Dieu dans des ministères, ça c'est autre chose, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible demande qu'on soit d'abord éprouvé avant d'avoir des responsabilités. Mais la Bible ne nous a jamais demandé d'être éprouvé avant de l'adorer, bien-aimé. Le Seigneur ne nous a jamais demandé d'être éprouvé avant de laisser quelqu'un louer Dieu. On doit être éprouvé pour des choses qui sont compliquées, pour des choses qui nécessitent, des choses qui amènent le salut des âmes. Mais pour tout ce qui est de rendre gloire à Dieu, bien-aimé, il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas besoin d'entraînement. Il n'y a pas besoin d'enseignement, bien-aimé, pour apprendre à dire merci à Dieu. Bien-aimé, il n'y aura jamais de cours de danse ici pour apprendre à louer Dieu. L'Esprit Saint sait nous apprendre à danser. Certains vont dire, mais il insiste là-dessus. Bien-aimé, c'est la première des choses que nous pouvons faire pour Dieu et la plus simple. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Parce que c'est la chose aussi qui montre, si nous voulons être honnêtes vis-à-vis de Dieu, à quel niveau d'orgueil nous sommes encore. Qu'est-ce qui empêche que l'Esprit Saint se manifeste librement? Le doute, bien-aimé. Le manque de foi. Les apôtres étaient là devant cet homme, les poches vides. Ils n'avaient rien, ils n'avaient pas d'argent. Mais ils ont dit quand même, nous avons quelque chose. Nous avons quelque chose. Par la foi que nous avons en Jésus, lève-toi et marche. Ils ont laissé exprimer leur foi. Parce que c'était au-dedans d'eux. La foi, bien-aimés, ils ne l'ont pas reçue plus que nous. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi ils avaient la foi? Parce qu'ils ont tout simplement accepté de croire à l'Évangile tel que le Seigneur leur avait présenté. Le doute et la crainte empêchent le Saint-Esprit de nous pousser quelquefois à faire des prières de foi. Il y a des sujets de prière que nous entendons. On n'ose même pas prier pour cela. Parce que nous sommes remplis de doutes, remplis de craintes. Et l'Esprit Saint ne peut pas s'exprimer librement. Mais tellement que Dieu est bon, il est écrit quand même que ça doit être certainement dans certains cas que lorsque quelquefois nous avons du mal à nous exprimer, alors le Saint-Esprit, lui, par des soupirs inexprimables, prie Dieu. Mais lorsqu'il prie Dieu, bien-aimé, je ne crois pas que c'est au moment où c'est lié au manque de foi. Peut-être parce que l'émotion nous dépasse, mais la foi est dans le cœur. Là, l'Esprit Saint prend la relève pour exprimer à Dieu ce que le cœur aurait voulu exprimer. Nous devons marcher par l'Esprit, bien-aimé. Nous devons laisser l'Esprit Saint vivre au-dedans de nous. Nous sommes les propres obstacles de la vie que Dieu voudrait nous donner, de la vie que Dieu voudrait manifester au-dedans de nous. 1 Samuel, chapitre, au premier chapitre. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait avec elle, qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que murmurer, que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai ni bu ni vin, ni boisson, enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Amen. Cette femme était stérile. Elle n'entendait que de mauvaises paroles de la part de sa rivale, parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter. La Bible dit que elle humilia son âme. Les lèvres bougeaient simplement, mais on n'en entendait pas le son. Il n'y avait pas de son qui sortait de sa bouche. Cette femme avait une grande douleur dans le cœur. Et cette douleur, cette émotion, s'est manifestée par des pleurs. S'est manifestée par le fait qu'elle n'avait plus d'appétit. Elle n'avait pas bu, elle n'avait pas mangé. Elle était dans une profonde douleur. Et elle déversait son âme devant Dieu. La Bible dit que lorsqu'elle finit de prier, et qu'elle s'en retournait, elle but, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Bien-aimés, dès l'instant où nous résistons, où nous refusons de pleurer devant Dieu, où nous refusons de crier devant Dieu, où nous refusons de nous soumettre, d'accepter que nous avons besoin de Dieu, bien-aimés, c'est difficile pour que l'Esprit Saint se manifeste. C'est difficile pour que le plan de Dieu se manifeste en nous, bien-aimés. Mais cette femme s'est humiliée parce qu'elle a reconnu que la situation dans laquelle elle était, elle ne pouvait espérer qu'en Dieu. Elle a répandu son âme. La douleur qu'elle avait au-dedans d'elle, elle l'a exprimée devant Dieu. Et la Bible nous dit que son visage a été changé. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit est libre d'agir, bien-aimé, il change, il transforme. Lorsque le Saint-Esprit est maître, bien-aimé, il communique la paix. Cette femme, le visage a changé parce qu'elle était en paix. Et cette paix, bien-aimée, fait partie des vertus de la nature de Dieu qui ne demande qu'à se manifester. La Bible dit dans Matthieu 5, « Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. » La paix, bien-aimée, nous l'avons. Mais elle se manifeste dès l'instant où nous acceptons le schéma de Dieu. Elle se manifeste dès l'instant où nous acceptons de faire confiance à Dieu. Le visage de cette femme a été transformé parce qu'elle a prié avec humilité, elle a prié avec assurance. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que si nous prions avec foi, alors ce que nous avons demandé, nous le verrons aussi s'accomplir. Cette femme a prié avec foi. Et combien même, elle ne fut pas enceinte le même jour. Mais spirituellement, elle avait tout compris. Spirituellement, elle avait accepté le schéma de Dieu. Et la transformation s'est vue sur son visage. Lorsque Moïse a rencontré Dieu sur la montagne bien-aimée, le peuple a vu que le visage de Moïse était illuminé, brillait, parce qu'il avait rencontré Dieu. Rencontrer Dieu, bien-aimé, ce n'est pas simplement le voir face à face. Rencontrer Dieu, c'est accepter de le laisser régner en nous. Celui qui accepte de laisser Dieu régner, bien-aimé, c'est celui-là qui a connu Dieu. Moïse avait connu Dieu et le peuple l'a vu sur son visage. Alors lorsque on dira, bien-aimé, mais on ne doit pas toujours regarder à l'apparence, on ne doit pas toujours regarder à l'extérieur. Mais bien-aimé, c'est bien souvent l'extérieur qui va témoigner de ce que réellement nous avons vécu avec Dieu. Alors, je reviens encore, bien-aimé, à mon point principal, parce que c'est celui-là qui est le plus flagrant. Pendant qu'on est en train de chanter, quand il y a des chrétiens qui sont les bras croisés, assis, bien-aimé, on se pose la question, est-ce que vraiment ils ont rencontré Dieu? Nous avons tous reçu une éducation, bien-aimé. Ça se fait peut-être moins aujourd'hui, ça doit se faire encore, mais autrefois, lorsqu'on était en classe, si le directeur entre dans la classe, bien-aimé, tout le monde se lève. Lorsque le professeur entre, tout le monde se lève. Lorsque l'on reçoit une autorité, bien-aimé, la moindre des choses, c'est de se lever. Par respect. Combien même on n'aimait pas le proviseur. Combien même on n'aimait pas le professeur. Le respect nous imposait d'avoir une réaction. Le respect nous imposait de manifester quelque chose. Alors combien même, bien-aimés, on peut ne pas être dans la joie parce qu'on estime que nos problèmes sont trop grands. Mais lorsqu'on est dans la présence de Dieu, bien-aimés, est-ce qu'on peut se permettre de regarder par la fenêtre ou bien compter les moutons? Il y en a certains qui sont assis les bras croisés et même beaucoup plus loin en train de mâcher le chewing-gum tranquillement. Bien-aimés, nous avons affaire à Dieu. Nous n'avons pas affaire à un homme. Et combien même on dira devant les gens, oui, mais moi je connais ma relation avec Dieu, bien-aimé. La vie chrétienne que nous vivons, nous ne la vivons pas que pour nous-mêmes. Nous sommes un corps. Et notre vie doit être un témoignage pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Notre vie doit être un témoignage pour ceux qui sont considérés comme faibles, qui ont besoin de voir des chrétiens matures pour les aider. On ne vit pas que pour nous, bien-aimés. Il y a certaines choses qui ne sont pas, je dirais, interdites dans la Bible, mais que nous ne faisons pas pour ne pas blesser les autres, que nous ne faisons pas pour qu'un maximum soit sauvé. Alors dire, ben moi je le fais, mais dans tous les cas, Dieu regarde à mon cœur, lui-même il sait. Si réellement nous aimons Dieu, si réellement le Saint-Esprit vit en nous, bien aimé, ce n'est pas quelque chose qu'on va réfléchir. Ce n'est pas quelque chose qu'on va calculer. C'est quelque chose qui sera automatique. L'Esprit Saint cherchera toujours à se manifester pour remercier le Seigneur, pour glorifier Dieu. Bien aimé, je ne danse pas tous les dimanches, mais je ne suis pas quand même assis tous les dimanches. Je peux comprendre qu'on soit assis aujourd'hui. Je peux comprendre qu'on n'est pas forcément inspiré aujourd'hui. Mais lorsque c'est tous les dimanches, bien aimé, donc il y a un problème. Lorsque c'est tous les dimanches, il y a un problème. Le but de mon message, bien aimé, c'est que nous puissions comprendre que l'Esprit Saint que nous avons au-dedans de nous, Dieu nous l'a donné pour qu'il puisse manifester la nature de Dieu. Et l'Esprit Saint au-dedans de nous a soif de vivre pour Dieu. Mais nous sommes maîtres dans notre volonté. Et le Seigneur ne peut pas nous imposer. Le Saint-Esprit ne peut pas nous l'imposer. Mais il ne peut que nous le proposer. Ce qui est nécessaire à notre salut, c'est écrit noir sur blanc et nous pouvons le comprendre. Nous voyons, bien-aimés, le Seigneur, la Bible dit qu'il était égal à Dieu. Il était égal à Dieu. Les miracles qu'il a faits ont témoigné qu'il était de Dieu. Mais lorsqu'il a prié, alors que son heure devait arriver, la Bible dit que sa sueur était semblable à des grumeaux de sang. Cette sueur, bien-aimée, était la démonstration de ce qu'il souffrait intérieurement. Mais c'était aussi le témoignage de la faiblesse de Jésus-Christ en tant qu'homme. Si il était égal à Dieu, mais il était aussi semblable à nous. Mais la Bible dit qu'il a accepté de s'humilier, même jusqu'à la mort de la croix. Il a accepté de laisser vivre la volonté de Dieu. Il a accepté d'être un simple instrument. La souffrance qu'il avait au-dedans de lui s'est exprimée. Lui qui avait dit qu'il détruirait le temple, si on détruisait le temple, qu'il le reconstruirait. Lui qui disait qu'il était venu sauver. Bien-aimé, les disciples auraient pu le voir, leur maître en agonie. Mais il a accepté de s'humilier. Pour que le Saint-Esprit vive en nous, bien-aimés, ça demande beaucoup d'humilité. Parce que comme on l'a dit dans Jean 3, 8, bien-aimés, celui qui est né de Dieu ne fait plus ce qu'il veut. Accepter que l'Esprit Saint nous pousse à dire des choses, à faire des choses que humainement parlant, on n'aurait jamais fait, bien-aimés, ça demande beaucoup d'humilité. Donc la raison principale qui fait que l'Esprit Saint ne se manifeste pas librement, bien-aimés, c'est tout simplement notre orgueil. La honte, c'est l'orgueil. Le manque de foi, c'est l'orgueil. Lorsqu'on ne fait pas totalement confiance à Dieu, en quelque sorte, on voudrait aider Dieu en agissant un peu par nos propres moyens. Nous sommes appelés à vivre comme des enfants de Dieu bien-aimés. Le Seigneur nous en a montré l'exemple. Le fruit de l'Esprit nous est donné dans Galates 5, 22. Et ce fruit de l'Esprit bien-aimé, nous l'avons reçu théoriquement. Mais pratiquement, il peut aussi se manifester si nous en donnons le choix au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous a appelés, bien-aimés, pour la liberté. Que ce message ne nous amène pas, bien-aimés, à la culpabilité. La culpabilité ne vient pas de Dieu. On peut avoir un sentiment comme de culpabilité, mais qui doit nous amener à la repentance et qui doit nous amener à remercier le Seigneur. Que ce message ne nous amène pas à la colère. Ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est de nous sauver, bien-aimés, et de nous amener à ressembler à Jésus. Que chacun d'entre nous, nous puissions nous humilier et reconnaître, oui, Seigneur, si je n'arrive pas à t'adorer, c'est parce que je suis orgueilleux. Seigneur, si je n'arrive pas à être reconnaissant pour les bienfaits que tu fais dans ma vie, c'est parce que je suis orgueilleux. Seigneur, si je n'arrive pas à pratiquer ta parole, alors que le frère qui est de chair comme moi, qui a reçu le même esprit que moi, lui arrive à pratiquer, donc c'est moi qui ai un problème. N'accusons plus les autres bien-aimés, regardons-nous et soyons honnêtes vis-à-vis de Dieu, soyons honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes, soyons honnêtes vis-à-vis des hommes bien-aimés, ne faisons pas semblant, ce n'est pas la honte d'avoir des faiblesses, ce n'est pas la honte bien-aimés d'avoir besoin de Dieu. Tout homme a besoin de Dieu. Et ceux qui sont forts, ce sont ceux qui le reconnaissent. Que oui, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. À Jésus-Christ seul soit la gloire au siècle des siècles. Seigneur, ce matin, nous voulons encore nous humilier devant toi. La Bible dit que tu châties, Seigneur de gloire, ceux que tu aimes. Et combien, Seigneur Dieu de gloire, même ta parole peut quelquefois être difficile à accepter. Seigneur, nous ne voulons pas la contester et reconnaître que c'est toi qui as raison. Bien souvent, nous avons contesté, Seigneur. Bien souvent, nous nous sommes justifiés. Seigneur, mais tu ne te trompes pas, car tu es Dieu. Aide-nous à accepter ton plan. Aide-nous à accepter ta volonté. Seigneur, c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Mais la liberté, Seigneur de gloire, ce n'est pas de faire ce qu'on veut faire. La liberté, Seigneur de gloire, c'est de vivre par le Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, nous confessons encore que nous avons besoin de toi. Et nous te demandons pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons marché par la chair. Notre volonté, Seigneur de gloire, c'est de te suivre, de marcher par ton Esprit Saint. Mais nous savons que pour cela, Seigneur de gloire, nous avons aussi besoin de ton soutien. Seigneur, nous t'implorons ce matin encore, Seigneur, afin que tu viennes à notre aide, que tu viennes à notre secours. Seigneur de gloire, c'est toi qui es notre gloire, c'est toi qui relèves notre tête. Qui d'autre, Seigneur de gloire, implorer ? La grâce vient de toi, Seigneur. Qui d'autre prier, Seigneur de gloire ? C'est toi seul qui exauce. David s'est humilié devant toi, Seigneur. Parce qu'il avait péché. Parce qu'il était tourmenté au-dedans de lui. Seigneur, il savait que toute sa vigueur, que toute sa force viendrait de toi. Il s'est humilié, Seigneur Dieu de gloire, et tu lui as donné la paix. Anne, Seigneur Dieu de gloire, qui était dans l'angoisse, qui était dans la tristesse, dans la douleur, parce qu'elle ne pouvait pas enfanter, Seigneur, s'est humilié devant toi, car elle savait, Seigneur de gloire, que son salut viendrait de toi. C'est toi seul qui exauce, Seigneur. C'est toi seul qui amène à l'existence les choses qui ne sont pas. Elle s'est humiliée devant toi, Seigneur, et tu l'as exaucée. Seigneur, nous voulons avec assurance nous humilier devant toi, car nous savons que tu entends. Et nous avons cette assurance que tu agiras. Car tu dis dans ta parole que tout ce que nous demandons selon ta volonté, tu nous écoutes. Seigneur, viens au contrôle de toutes choses, Seigneur. À travers ce cantique, Seigneur Dieu de gloire, nous voulons t'adresser, Seigneur de gloire, notre prière. La véritable paix se trouve auprès de toi. La véritable vie se trouve auprès de toi. Et c'est toi que nous invoquons ce matin, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ton Esprit Saint.